Faut jamais oublier que le cinéma, c'est une affaire de fantômes. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas d'ailleurs, que le film qu'on est en train de regarder soit une comédie romantique, un western ou un film fantastique, ça change rien. C'est une affaire de fantômes. On est dans une salle obscure, on nous a promis une séance, et sur un genre de drap blanc, on nous projette d'étranges lumières, des spectres translucides, de la magie qui sort d'une boîte. Ce sont des images du passé, parce qu'elles ont déjà été tournées, qui sont ressuscitées sous nos yeux et qui nous font croire qu'elles sont vivantes. Ce sont des fantômes, parce que ce sont des traces, en fait, qu'on a enregistrées, des empreintes qui ont survécu et qui réapparaissent comme des fantômes. Il faut toujours se rappeler que le cinéma a quelque chose à voir dans son histoire et dans sa technologie. Avec le spiritisme. Vous savez que Thomas Edison envisageait de construire une machine pour parler aux esprits, pour parler aux morts, et qu'on pourrait faire l'hypothèse que c'est faute de parvenir à créer un outil permettant de communiquer avec l'au-delà qu'on inventa le phonographe et le cinématographe. Après tout, il est question de croyance dans une salle de cinéma, d'illusion et puis de possession. Il vous est forcément arrivé, comme moi, de voir surgir dans le corps d'un acteur comme une apparition les fantômes de ceux qui l'ont précédé.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel fantôme fait surgir mon invité d'aujourd'hui? D'aucuns la surnomment le caméléon et la considèrent comme l'une des plus grandes comédiennes au monde. Doublement oscarisée sur grand écran, elle a incarné la reine Elisabeth, Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, Catherine Hepburn chez Scorsese, Bob Dylan chez Todd Haynes. Elle est actuellement à l'affiche du nouveau film de Guillermo del Toro et recevra bientôt un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Bonjour, Cate Blanchett.
Hi.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Avant toute chose, par quel fantôme de cinéma êtes-vous hanté?
Gosh, there's so many. I mean, there's,
oh, ça se bouscule. Et on en parle comme de grands acteurs du passé, mais ils sont encore très présents. Gina Rollins, Liv Ullmann, encore bien vivantes, m'ont énormément influencé. J'ai aussi pensé à Barbara Stanwyck et à Lauren Bacall, surtout pour Nightmare Alley. Et l'une de mes grandes favorites, c'est Bette Davis, bien sûr. Pas forcément pour Nightmare Alley, mais pour tout. C'est elle que j'ai découverte en premier. J'adorais les films d'horreur. Quand j'avais 10-12 ans, et Bette Davis avait joué dans des films d'horreur. Je l'ai donc découverte à l'âge de 10 ans, puis au fil du temps, j'ai pu mesurer l'immensité de son talent. Je suis complètement fan.
Mais se peut-il qu'un acteur se constitue alors de celles et ceux qui l'ont précédé?
I think... That is absolutely true. I think it's not
absolument. On n'aime pas trop en parler parce que chacun revendique son individualité. Personne ne veut être une pâle imitation des acteurs qui l'ont marqué. Mais c'est vrai, quand on voit un acteur extraordinaire sur scène, ou qu'on est traversé par un superbe film avec des performances d'acteurs incroyables, on est forcément influencé parce que nous, les acteurs, sommes des créatures poreuses et nous absorbons toutes ces influences sans en avoir conscience.
Alors, ce qui est passionnant, c'est les références que vous faites à Lauren Bacall dans Nightmare Alley, par exemple. Peut-être d'abord à cause de votre regard, Lauren Bacall, que l'on surnommait d'ailleurs The Look. Qu'est-ce qui fait la force d'un regard au cinéma, Cate Blanchett?
Well, I mean, I'm a theater actor first and foremost.
Je suis avant tout une actrice de théâtre.
I'm a great lover of language.
Donc, je suis amoureuse des mots. Mais au cinéma, je dis souvent aux metteurs en scène ou aux scénaristes, on a vraiment besoin de cette réplique, on ne peut pas la remplacer par un geste, par un mouvement de tête, une inspiration ou par le regard. Si on me répond, je n'en sais rien, alors c'est toujours bien de dire la phrase puis d'essayer sans les mots. C'est un exercice enrichissant, mais tout dépend du directeur photo, du cadreur, du metteur en scène. Parce qu'un réalisateur peut prendre un visage en gros plan et ça ne donne rien. Et on capable de voir le même visage, le même cadrage avec un autre metteur en scène. Et là, il se passe quelque chose. C'est comme être photographié par Avedon ou Irving Penn ou Annie Leibovitz quand on a une belle relation avec ces photographes. Une conversation s'engage avec le metteur en scène à travers l'œil de la caméra. Et là, le regard peut en dire beaucoup. Et quand la personne derrière l'objectif est Guillermo del Toro, ça rend le regard éloquent.
Guillermo del Toro qui revisite ici pour la première fois le film noir à travers notamment votre personnage de psychanalyste, l'archétype de la femme fatale, séductrice et machiavélique. Ce type de personnage qui est un fantasme, qu'est-ce que vous en faites, vous? Pourquoi est-ce qu'il vous intéresse?
Oui, c'est une figure énigmatique, indéchiffrable, cet archétype de la femme fatale. Mais Guillermo prend des libertés avec les codes du film noir. Il voulait créer un personnage de femme fatale plus complexe. La femme fatale traditionnelle est une sirène qui, juste pour s'amuser, attire les hommes sur les rochers et les détruit. Alors que mon personnage, Lilith, a un but un peu plus élevé. Elle a réussi à survivre à un système extrêmement corrompu et moralement condamnable. Et elle veut voir si le personnage joué par Bradley Cooper, Stanley, aura le courage et la force morale nécessaires pour affronter la vérité et survivre à ce système. Et donc, s'ensuit une série d'épreuves et de manipulations psychologiques, un peu comme le Sphinx. C'est Oedipe. Si tu surmontes cette épreuve, alors je suis prêt à être détruit par toi. Leur échange relève de l'épopée, de la tragédie grecque. Ce n'est pas le flirt classique attendu entre la femme fatale et le héros.
Mais c'est quand même un personnage qui nous invite à nous interroger sur la représentation des femmes à l'écran et aussi sur la manière dont ces représentations façonnent notre imaginaire collectif, nos désirs, nos peurs, la façon dont ils agissent sur notre inconscient. Après tout, vous jouez le rôle d'une psychanalyste.
Ce que je trouve intéressant dans le projet de Guillermo, c'est qu'il a vraiment calibré les trois personnages féminins par rapport aux personnages de Bradley Stanley. Toni Collette joue Xena, une figure presque maternelle, une mère qui voit tout, qui sait tout, comprend tout. Le personnage de Rooney Mara, lui, représente l'innocence, c'est un peu le cœur battant du film. Et moi, une vie difficile m'a endurci et rendu machiavélique. Alors ces trois femmes inventent une série d'épreuves pour cet homme lambda. Chacune de ces femmes est un archétype, alors on pourrait craindre un traitement un peu simpliste. Mais Guillermo les a imaginées dès le départ comme une partie d'un tout, le savoir féminin, si vous voulez, le point de vue de la femme. Et ce point de vue féminin, même si l'histoire raconte d'abord le parcours d'un homme, irrigue tout le film.
Quelle vérité peut-il y avoir dans une image de cinéma, Cate Blanchett? Le cinéma qui est l'art de l'illusion, par excellence.
Oui, c'est l'art de l'illusion, mais il y a aussi, prenez les cultures des peuples autochtones. Suzanne Sontag, à propos du vocabulaire de la caméra, souligne le parallèle avec le langage des armes à feu. On shoot comme un tir, on parle de visée, de captation. Et les peuples autochtones avaient souvent peur que la caméra leur vole un peu de leur esprit ou leur âme. Et je crois que la caméra peut, tout dépend de la personne derrière l'objectif, mais la caméra peut capter et mettre à nu quelque chose de notre humanité. Je ne veux pas avoir l'air pédante, mais il y a là une vérité essentielle dont même l'acteur n'a pas conscience et qui se révèle à travers lui, presque malgré lui. C'est une relation très intime qu'on noue avec le public. Et c'est ce que j'ai trouvé tellement triste ces deux dernières années. On ne pouvait plus aller au cinéma pour découvrir toutes ces histoires. Et dans le cas d'un cinéaste comme Del Toro, on a été privé de ces expériences cinématographiques sur grand écran. Bien sûr, on peut les regarder sur un petit écran et suivre l'intrigue, en saisir la force, mais on n'aura pas cette plongée fantastique et intime dans une catharsis à la grecque, cette traversée des apparences. qui nous relie à la grande épopée humaine grâce au cinéma, vers une vérité plus profonde.
C'est intéressant que vous interrogiez ainsi la notion de vérité, parce que cette idée de vérité, de mensonge, d'illusion, d'aveuglement aussi, elles sont centrales dans le film de Guillermo del Toro, tout comme elles l'étaient d'ailleurs dans le film Don't Look Up, sorti en décembre sur Netflix, dans lequel vous jouiez une savoureuse présentatrice de télé dans un monde comme le nôtre. Cate Blanchett, qu'est devenue la vérité et qu'est-ce qui se passe quand un individu finit par croire à ses propres mensonges?
Quand quelqu'un finit par croire à ses propres mensonges, ça donne le monde cauchemardesque que décrit Guillermo dans Nightmare Alley. La vérité est devenue un produit modifiable, permutable et très politisé. C'est comme si on changeait la notion de bien et de mal. Il y a des choses moralement répugnantes et d'autres qui sont admises. Jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, la vérité reposait sur des faits qu'on savait établis, prouvés et vérifiés. Et puis tout à coup, la vérité est devenue, je ne sais pas, quelque chose de flou, de mouvant. Je trouve ça absolument terrifiant. Ça, c'est un monde cauchemardesque.
Celle qui n'est que mensonge dans cette émission, vous la connaissez, Kate, c'est la culture et son actualité complètement mythomane. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 24 janvier ?
Je travaille sur un mannequin vivant et dans les vrais tissus. Et ça découle du corps et ça découle du tissu. C'est un rapport corps-tissu.
Légende de la mode, le français Thierry Mugler est mort hier. Il avait 73 ans, artiste inclassable, ancien danseur. Il avait bouleversé les codes de la couture dans les années 80 en proposant des défilés titanesques aux airs de superproduction pop. Créateur spectaculaire, Mugler avait inventé pour la femme une silhouette tout en structure et sophistication, reconnaissable à ses épaules renforcées, ses décolletés plongeants, son glamour tapageur. Hasard du calendrier couturissime, une grande rétrospective lui est consacrée au musée des Arts Déco à Paris. Jusqu'en avril.
Et c'est Delphine de Vigan. Et j'en suis vraiment très très heureuse.
Et c'est parti pour le show. Ce matin dans la matinale, l'inénarrable Eva Bétan a officiellement donné le coup d'envoi de la 48e édition du très convoité prix du Livre Inter. Cette année, c'est au tour de Delphine de Vigan, présidente 2022 des festivités, que se réuniront les 24 jurés, choisis de manière parfaitement paritaire aux quatre coins de la France. Pour faire partie des heureux élus, rien de plus simple, vous avez jusqu'au 28 février pour candidater en envoyant votre plus belle déclaration d'amour à la littérature par email ou par voie postale à l'adresse 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16, avec Delphine de Vigan et Eva Bétan. On vous attend.
Prêt, action!
Attention Angers, rampe de lancement, la jeune garde du cinéma européen. Le festival Premier Plan inaugure aujourd'hui sa 34e édition à Angers. Jusqu'à dimanche, sous la houlette des présidents du jury Melville Poupeau et Chloé Maslow, la manifestation propose de découvrir près d'une centaine de premiers ou deuxièmes films en sélection officielle, mais aussi de s'aérer les mirettes avec un focus évasion, ou encore de redécouvrir l'œuvre du cinéaste allemand Christian Petzold, auquel la manifestation consacre une grande rétrospective.
Christine et moi, nous étions des vrais lecteurs de science-fiction, on aimait vraiment ça. On s'est dit, on va peut-être faire un petit essai avec une bande dessinée de science-fiction, puisque personne n'en faisait dans le journal pilote.
Et enfin, Valérian Orphelin, géant de la BD tricolore, le dessinateur Jean-Claude Mézières s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 83 ans. Avec son compère de toujours, Pierre Christin, il avait révolutionné la science-fiction française en créant dans les années 60, dans les pages de Pilote, Valérian et Laureline, saga galactique, culte, portée sur grand écran par Luc Besson en 2017. Son trait foisonnant, fait de planètes exotiques, de machines futuristes, de végétation luxuriante, avait largement inspiré le 7e art, de Star Wars au 5e élément, respect. La comédienne Cate Blanchett, invitée de Boomerang ce matin, à la veille du César d'honneur qui lui sera remis. Et je connais, Cate, votre amour pour le cinéma français. En quoi diriez-vous que ce cinéma a formé votre regard de spectatrice?
Je me rappelle avoir vu L'étranger quand j'étais au lycée. C'était le premier film, disons, sérieux que je voyais. Je devais avoir 14 ans. Notre prof de français nous a emmené le voir dans un cinéma indépendant, C'était à Melbourne, en Australie. Et ce film m'a complètement chamboulé. J'étais fascinée par tous ces jeux avec le temps, par cette manière de donner à des idées intellectuelles une forme visuelle puissante. Et je me suis mise à regarder autrement l'image animée.
Par ailleurs, vous qui venez du théâtre, qu'est-ce que vous avez eu le sentiment de comprendre et d'apprendre sur ce que c'est que de jouer devant une caméra, à travers votre expérience de spectatrice?
Well, I don't know if this answers your question,
je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'ai aussi été très marquée par un autre cinéma français en voyant les films de Jacques Tati. Cette incroyable maîtrise de son corps, ça m'a beaucoup inspirée. Ça, c'était au cinéma, mais j'ai transposé ce que j'avais compris là dans mon travail théâtral, ce jeu corporel de la comédie. Je suis quelqu'un d'assez physique et au fond, c'est ça que j'adore au théâtre, cette relation physique immédiate avec le public et avec l'espace, qui est beaucoup plus difficile à établir au cinéma. Et j'ai trouvé ça avec Guillermo parce que on a travaillé comme pour une répétition théâtrale, tous les trois dans une toute petite pièce, Bradley, Guillermo et moi, pendant 3 semaines.
Au fond, qu'est-ce que c'est une actrice de cinéma pour vous ?
J'ai du mal à répondre à cette question parce que, pour moi, et je ne peux parler que de mon expérience personnelle, les deux disciplines entre lesquelles j'ai eu la chance d'évoluer se nourrissent l'une l'autre. Je connais le plan rapproché, l'intimité révélée par un très gros plan et toute l'énergie qu'il faut y mettre tout en économisant sa gestuelle. J'ai transposé cette expérience sur les planches et à l'inverse, ce que j'ai appris sur le proscenium, j'ai pu l'utiliser au cinéma pour mieux jouer avec les plans larges, les plans d'ensemble. En fin de compte, un grand acteur au théâtre comme à l'écran, c'est quelqu'un de généreux, de présent, disponible et qui comprend l'intention du projet dans son ensemble, pas uniquement le rôle qu'il y tient.
Il paraît que vous n'êtes jamais satisfaite de vos performances, que vous vous dites toujours que vous auriez pu mieux faire. L'insatisfaction, quel moteur est-ce que c'est pour la comédienne que vous êtes ?
Oui, je suis toujours insatisfaite. Martha Graham parle de cette insatiable insatisfaction. Je m'y reconnais complètement. Ça vous pousse à essayer de réparer ce qu'on a raté sur scène ou à l'écran. On ne peut pas s'excuser, mais on peut tenter de s'améliorer. Nous sommes le produit de toutes nos habitudes. On ne peut jamais s'échapper vraiment de soi-même. Mais le privilège de l'acteur, c'est de pouvoir se glisser dans des vies différentes et, avec un peu de chance, échapper à ses propres habitudes. Mais c'est vrai, je dis toujours que je vais arrêter, que je ne peux plus infliger aux spectateurs les bourdes que je fais sur les plateaux. Mais alors Adam McKay appelle, ou Guillermo del Toro appelle, ou Scorsese, ou Pedro Almodovar. Et là, je ne peux pas dire non, c'est tellement génial d'être en conversation avec eux.
Quand est-ce que vous avez ressenti ce désir de devenir comédienne ? Quand est-ce que ça s'est imposé à vous ?
Je crois que j'ai essayé de fuir ce métier toute ma vie. Je continue de le fuir. Mais quand j'avais 7 ou 8 ans, ma mère m'a emmenée voir une production semi-professionnelle d'une opérette de Gilbert et Sullivan appelée Le Mikado. Et il y avait cet acteur haut en couleur, c'était en Australie. Il s'appelait Frank Thring. Il jouait l'empereur. Il portait une fausse moustache d'une longueur impressionnante et voilà qu'elle se détache en pleine représentation et tout le public a fait « parce qu'il avait perdu sa moustache, c'était très gênant, ça n'aurait pas dû arriver ». Alors, il l'a ramassée, il l'a retournée, il a fait « Made in Japan », puis il l'a remise en place. Il était complètement sorti de son rôle, mais il avait l'esprit vif et il s'est aussitôt remis en scène. Moi, recroquevillée sur mon siège, je voyais s'écrouler le quatrième mur. J'étais comme suspendue à un élastique et tout à coup, j'étais de nouveau projetée dans la pièce. C'est idiot, mais je me suis dit, waouh, le théâtre, c'est vraiment dangereux.
C'est passionnant parce qu'à vous entendre, c'est à la fois une expérience physique et une expérience intellectuelle.
Oui.
Et pour moi, au fond, c'est ça le théâtre.
On va en reparler d'expérience, d'intention, d'émotion et d'incarnation. Juste après Peggy Lee, Why Don't You Do Right en 1942. Vous êtes sur France Inter avec Kate Blanchett. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
You had a plan in money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. The men do. Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do.
France Inter.
Ah bah elle est Hollywood, hein. Quelque part entre Lorraine Bacall, Gina Roland et même Charlotte Rampling, avec ce visage, vous savez, capable de mille métamorphoses, ce regard velours, tantôt caressant, tantôt inquiétant, cette dent tantôt végane, tantôt carnassière, imprévisible. Kate Blanchett, invitée de Boomerang ce matin pour parler d'incarnation, de regard, de voix. En quoi, je me suis demandé, incarner un personnage, ça passe peut-être d'abord par ça, par la voix.
Gosh, it's a really interesting question.
C'est vraiment une question intéressante. Je crois qu'il faut d'abord découvrir comment respire un personnage. Ma grand-mère, j'ai vécu petite avec ma grand-mère et elle écoutait la radio tard le soir. J'entendais ces voix désincarnées qui venaient de sa chambre la nuit. Des gens qui évoquaient leurs petits malheurs, ils devaient être insomniaques, alors ils parlaient de leur vie. Et j'entendais les silences entre leurs phrases, j'entendais leur respiration. C'était comme si je les entendais penser. Alors on peut, ça dépend, si on fait une parodie ou une satire, on peut coller sa part de en fonction de ce que demande le rôle. Mais je crois que la voix doit s'accorder à la façon de penser du personnage. Donc c'est autant une question de rythme et de respiration que de son, de texture. Mais pour Nightmare Alley, je trouvais important de trouver une voix qui s'insinue dans la tête du personnage de Bradley. Un peu une voix de somnambule, oui.
Mais trouvez votre propre voix, à vous, en tant qu'individu, en tant que femme, par quoi c'est passé?
Vous savez, je ne réfléchis pas du tout à ce que je veux faire passer. Ça ne veut pas dire que l'acteur est passif, non. C'est une sorte de portail à travers lequel l'histoire est racontée. Et les meilleurs moments, quand ça coule, c'est quand les mots passent à travers l'acteur sans le filtre de ses propres jugements, de ses opinions politiques ou de sa vision du monde. Parce que notre boulot, à nous les acteurs, c'est de laisser cette histoire nous traverser pour atteindre le public. Et après, c'est au spectateur de juger.
En tout cas, votre voix, en tant qu'actrice, en tant que personnage public, vous n'hésitez jamais à la mettre au service de nombreux combats humanitaires, écologiques, mais aussi féministes. Cette conscience féministe, d'ailleurs, dans quelle mesure est-ce qu'elle oriente vos choix en tant qu'actrice ?
C'est intéressant parce que je suis actrice, mais je suis aussi un être humain. Les deux peuvent se croiser, mais pas forcément. Quand un acteur atteint une certaine notoriété, sa visibilité lui offre une tribune. On peut ne pas s'en servir, aucun problème. On peut aussi s'en servir pour rallier des soutiens en vue d'améliorer les conditions de travail dans son métier, son domaine d'activité. Ça, c'est une cause qui m'intéresse. Mais je ne me vois pas utiliser ma célébrité pour dire aux gens quoi penser. Ce n'est pas mon truc. Évidemment, j'ai des convictions à travail égal, salaire égal, et la nécessité de briser les vieux réflexes comme le racisme systémique. Je m'investis dans ces causes en tant qu'être humain, en tant que parent. Je pense aussi que plus il y a de diversité dans les histoires portées à l'écran et de diversité parmi ceux qui les filment, et plus c'est intéressant. C'est donc aussi un impératif au nom de la créativité.
I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. Don't you dare. See how this demeans me?
Since when do you care about the scandal rags, huh?
Every time there's a picture of you with another woman, it's like a slap in the face.
Yeah,
Joan Crawford, Ginger Rogers, Linda Darnell, Joan Fontaine, and now Bette Davis, for God's sake.
Why would God put this fire in me if he didn't want me to act on it?
No, I love you. I've always loved you. For God's sake, you are still my Elizabeth.
I am not your Elizabeth. I am no man's Elizabeth. And if you think to rule her, you are mistaken.
I too can command the wind, sir! I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me!
If you should fail, the fellowship is breaking. He will try to take the ring. You know of whom I speak. One by one. Destroy them all.
Jasmine!
Anxiety, nightmares, and a nervous breakdown.
Can you please not fight in here?
Don't think I can take it. For some reason, my Xanax isn't kicking in.
See, you just want me to say what you want me
to
say.
It's all about him. How does it feel?
That's nature's will, and I'm against nature. How does it feel?
If he can't have me, I can't see my daughter.
I will not negotiate anymore. I want it, and I will not deny it. Would you?
Kate Blanchett, si je vous parle de féminisme, c'est aussi que j'ai l'impression que rôle après rôle, vous ne cessez d'explorer et d'interroger notamment les mécanismes du patriarcat et ses effets sur les femmes, que ce soit dans Elizabeth, dans Blue Jasmine, dans Carol, dans Nightmare Alley, et même dans une certaine mesure dans votre relecture du rôle de la belle-mère dans Cendrillon, ou de la femme conservatrice dans la série Mrs. America. Au fond, c'est quoi un rôle bien écrit ? À quoi ça tient ?
J'ai appris une chose très tôt. Je jouais un rôle que beaucoup d'actrices avaient refusé, celui d'une petite amie. Et l'écriture n'était pas terrible. Alors j'ai dit au réalisateur, il y a beaucoup de répétitions dans le texte. Là, je ne pourrais pas plutôt dire ça. Il m'a répondu, Kate, tout le monde n'a pas les mots pour exprimer sa pensée. Alors à travers une langue en apparence banale, tu dois comprendre que ce que l'auteur essaie de raconter, c'est une tragédie grecque, mais il n'a pas les mots. Alors tu peux prendre un dialogue très mal écrit et essayer de dire quelque chose à travers ces mots banals.
Dans quelle mesure diriez-vous d'ailleurs que l'acteur c'est toujours alors un co-auteur du personnage qui lui est demandé de jouer?
C'est un mythe, cette vision de l'acteur qui se contente de suivre des ordres, où se placer, quoi dire, comment s'habiller. Il s'agit davantage d'une collaboration avec le metteur en scène, les autres acteurs, le chef-op, la production, l'équipe des costumes, et au final avec le public. L'acteur a l'énorme responsabilité de proposer des choses. Et ensuite, comme un architecte, le metteur en scène va donner forme à ses propositions, le montage aussi. Mais il faut arriver en ayant quelque chose à proposer et accepter d'être dirigé pour mettre en image ses propositions, puis revenir avec encore d'autres idées pour donner chair à l'histoire qu'on veut raconter. C'est un côté du métier que j'adore.
Au fond, quel est le pouvoir d'un acteur pour vous?
Qu'est-ce qu'on peut changer dans le monde ou en soi-même? Je ne sais pas. Les films racontent des histoires qui vont attirer ou rebuter les spectateurs, qui peuvent les découvrir au moment de leur sortie, ou bien si le film est vraiment puissant et temporel, comme Nightmare Alley, ils pourront le découvrir 5 ou 10 ans après. Seul le temps le dira. L'acteur n'a aucun pouvoir là-dessus.
Merci, Kate Blanchett, d'être venue faire un tour dans cette émission, et merci également à Eve Dare, votre interprète ce matin. Je rappelle, Kate, que Nightmare Alley de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper notamment est actuellement au cinéma et que vous recevrez bientôt un César d'honneur pour l'ensemble de votre carrière, ce qui est quand même entre nous la moindre des choses. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.